m'appelle Yannick Etienne, je fais partie de l'organisation Bataille ouvrière en Haïti. Et c'est un mouvement qui défend les intérêts des travailleurs en Haïti et nous avons une vocation, je dirais, syndicale et populaire. Nous luttons ce que respectent les droits des travailleurs, mais aussi les travailleurs ont d'autres droits. C'est pas seulement les droits du travail, mais tous les droits sociaux. Donc, populaire, parce que c'est les groupes cibles font partie des masses populaires et donc qui sont les plus défavorisés.
Si toi, tu devais définir ton pays rapidement, tu le ferais comment?
Je dirais que c'est un pays qui est dévasté, fait face à de grosses difficultés. Enfin, on a un aspect contradictoire, je dirais. Et d'un côté, il y a la façon traditionnelle qui veut se reproduire. Et d'un autre côté, il y a des forces sociales qui demandent qu'il y ait une rupture avec la façon dont on faisait avant. Donc, il y a cette lutte-là qui se mène et à ce moment et qu'on va voir qui va remporter. Bon, nous autres, nous sommes pour une rupture totale avec le passé, de ce qui se faisait avant le 12 janvier, parce qu'au fait, c'est un séisme qui est devenu désastre et naturel, entre guillemets, mais c'est parce que nos infrastructures, nos maisons n'étaient pas bien construites et le système de santé, d'éducation et tout ne fonctionnait pas. Donc, le pays était déjà mûr pour un changement radical et le séisme, avec tous ses effets, et négatif, je pense que c'est un moment justement de transformer ces éléments négatifs en positifs. Donc, ce qui veut dire prendre le taureau par les cornes et changer toute l'orientation du pays.
C'était il y a 6 mois. Haïti subissait un tremblement de terre dévastateur. Plus de 200 000 personnes ont perdu la vie dans ce séisme.
On leur avait promis un toit rapidement, mais plusieurs centaines de milliers de personnes vivent aujourd'hui encore dans un abri de fortune.
Aujourd'hui, l'heure est au bilan. La reconstruction du pays tarde toujours. Non, je ne suis pas contente. Le gouvernement ne nous traite pas comme des humains, mais comme des animaux. La population attend les milliards de dollars promis par la communauté internationale.
Depuis le 12 janvier, on sait que les Américains ont pris la conduite des opérations. Comment c'est vécu par les Haïtiens?
La majorité des gens, vu qu'il y a un problème, un désastre naturel, c'est une catastrophe, les gens avaient besoin de l'aide. Bon, c'est normal que des gens de différents pays aident un autre pays. Mais d'un autre côté, on voyait que les gouvernements des différents pays qui disaient qu'ils venaient nous aider avaient aussi d'autres objectifs et des objectifs politiques clairs et que en tant qu'Haïtiens, ça nous blessait un peu et qu'on n'avait pas vraiment un gouvernement qui pouvait répondre qui pouvait faire face à cette situation et que ce gouvernement était pratiquement sous les décombres et avant, ce gouvernement n'avait pas la volonté et de respecter, je dirais, et de protéger les droits des travailleurs et de la population en général. Donc, avec le séisme de 12 janvier, ça s'est apparu encore beaucoup plus clair à tous les Haïtiens qui vivaient cette situation, cette période-là, une période assez atroce et douloureuse. Et en plus, on voyait que notre pays était bel et bien occupé et que, bon, le 12 janvier a signé et c'était le début de la mise en tutelle du pays. Bon, on avait une occupation militaire, une force d'occupation militaire, mais après le 12 janvier, vu que le gouvernement ne pouvait pas répondre ou ne répondait pas à cette situation-là et que c'était les gouvernements étrangers et notamment les États-Unis qui faisait tout, qui donnait les directives, qui prenait les initiatives. Donc, en tant que Haïtien, on se sentait blessé. On avait besoin de l'aide, mais d'un côté et de l'autre côté, on se sentait agressé par tout et cet arsenal militaire, cette militarisation qui était assez et trop évident.
Que fait l'ONU en Haïti? Une émission hebdomadaire de Minusta FM.
Tu parles de force d'occupation. Est-ce que le mot, il n'est pas un peu fort pour un mandat de l'ONU?
L'ONU, c'est le drap qui cache. Parce que lorsqu'on parle des Nations Unies, on dit que c'est une concertation entre les nations, etc. C'est quelque chose. C'est un organisme qui veut la paix, qui veut stabiliser les choses. D'ailleurs, la force d'occupation s'appelle la MINUSTAH. C'est une mission pour la stabilisation et d'Haïti. Alors, c'est ce qu'on prétend. Mais au fait, ce sont les puissances étrangères, impérialistes, je dirais, et les États-Unis, la France, le Canada, qui, après la chute d'Aristide, avaient pris le contrôle du pays. Et vu qu'ils savent que les Haïtiens n'accepteraient pas leur présence, la présence des militaires américains, canadiens et français, donc ils sont venus avec cette initiative de mission formée par des forces armées des Nations Unies. Ce qui est pire, c'est que la majorité de ces forces militaires viennent de l'Amérique latine et ça a permis justement que un pays comme le Brésil, un pays entre guillemets émergent comme on dit et qui devient une puissance, je dirais au niveau et bon de l'Amérique latine, une puissance régionale qui joue un rôle pour ces pays, les pays, les États-Unis, la France et le Canada et de fait, c'est le Brésil qui est en commande de la mission onusienne en Haïti.
Qu'est-ce qu'on prévoit après, après cette occupation, après l'aide internationale qui est venue? Est-ce qu'il y a des choses de prévues ou est-ce qu'on compte de manière illimitée sur cette aide?
La mission onusienne était déjà là avant, le 12 janvier. Donc, et son mandat, cette mission-là est encore en fonction. Et au fait, c'est chaque année qu'on reprend le mandat. Et c'est le gouvernement haïtien qui signe et qui fait encore la requête à chaque fois. Bon, bien sûr, on sait que le gouvernement est sous le contrôle des puissances étrangères. Donc, c'est un bon élève et de non seulement des institutions financières internationales, mais aussi de ces pays qui deviennent les bailleurs de fonds du pays, d'un côté. Et de l'autre côté, après le 12 janvier, il y a non seulement cette mission des Nations Unies, mais il y a d'autres pays comme les États-Unis et la France, d'autres armées étrangères comme celle des États-Unis qui sont rentrées en Haïti. On parle de reconstruction ou de refondation, le gouvernement en parle beaucoup, mais 5 mois après le séisme, on ne voit pas de construction et ni de refondation. Et d'ailleurs, le plan qui a été accepté par les bailleurs de fonds au mois de mars, si on l'analyse en profondeur, on voit bien que ça n'amènera pas vraiment à une reconstruction du pays. c'est plutôt la reproduction des mêmes structures et sociales qui existaient avant. C'est pas une rupture. Non, d'ailleurs, on ne pouvait pas demander à un tel gouvernement de faire cette rupture, parce que bon, ce sont toujours encore les forces traditionnelles qui ont dirigé le pays et qui sont alliées aux puissances étrangères et qui mettent en application les politiques, les programmes économiques concoctés ou bien présentés par ces gouvernements et leurs organismes. Et c'est là le grand problème pour le mouvement progressiste, les mouvements sociaux qui veulent un changement est réel et la situation des masses populaires. Donc, le défi est grand maintenant pour nous. Non seulement il faut faire comprendre aux gens que oui, on a besoin de l'aide, on a besoin d'un appui des autres pays, mais il faut qu'on s'arrange à ce qu'on organise le pays d'une façon à ce qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs, les mêmes problèmes.
Tu vis entre deux villes, entre Port-au-Prince et une autre ville, à la frontière. Mmh. Comment s'appelle cette ville ?
Elle s'appelle Ouanamètre. C'est une ville frontalière entre la République dominicaine et Haïti. Et là, il y a une zone franche et qui accueille maintenant plus de 4000 travailleurs haïtiens.
Alors attends, c'est quoi une zone franche ?
Bon, une zone franche, c'est un espace, où, bon, ça pourrait être une zone franche industrielle, commerciale, mais c'est un espace où on ne paie pas de taxes, il y a des exonérations fiscales, douanières, etc. Et qui a un aspect de extraterritorialité. Donc, c'est pas toutes les lois du pays qui sont appliquées. Et dans cet espace-là. Donc, fort heureusement pour nous, le code du travail est en vigueur dans la zone franche. On utilise ce document, bien que imparfait, et le code du travail pour forcer les patrons à respecter les droits des travailleurs. Sinon, tout le monde sait très bien que les zones franches, ce sont des zones de non-droit.
Quel est le lien entre la paire de jeans de marque internationale que vous portez peut-être et Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques ? C'est l'entreprise de zone franche Codevi. Dans cette usine haïtienne, située le long de la frontière dominicaine, Georges Massès coud des ourlets de pantalons, vendus ensuite à l'étranger pour des grandes marques internationales comme Levi's. Georges touche un salaire de moins de 15 euros par semaine.
Donc là, il y a 4000 Haïtiens et Haïtiennes qui travaillent.
En fait, il y a des Haïtiens et des Dominicains. Les Haïtiens travaillent au niveau, je dirais, inférieur. Ce sont des travailleurs qui produisent, qui font l'assemblage. Et puis, ceux qui supervisent et qui dirigent, ce sont les Dominicains. Parce que c'est une firme, c'est une société dominicaine qui est le propriétaire de la zone franche.
Alors, c'est elle qui s'occupait de construire toutes ces usines ?
C'est cette société dominicaine qui a reçu un prêt et de la Banque mondiale, notamment la Société financière internationale de 25 millions de dollars. Et cet argent, c'est pour l'installation d'une zone franche comme un projet de développement sur la frontière haïtiano-dominicaine. L'idée, c'est de créer des emplois afin que les Haïtiens ne traversent pas la frontière pour aller travailler en Haïti. Comme vous savez, il y a le problème de la migration haïtienne en République dominicaine. Et pour la Banque mondiale, fédéral et les gouvernements des années récentes, c'était la solution de créer des emplois sur la frontière même. Au fait, le grand projet, c'est d'avoir plusieurs zones franches tout au long de la frontière. Donc, ça, c'est la première, les zones franches. Et bon, c'est une zone franche qui a été installée sur des terres arabes, des terres qui produisaient de la nourriture, voilà. Et voilà, ils ont chassé les paysans, puisque ce sont les terres de l'État, pour installer cette zone franche. Donc, ça avait causé beaucoup de protestations, et les agriculteurs et les organisations qui supportaient les agriculteurs dans les années 2003-2004. Malgré tout, et nous autres, au niveau de Bataille-Ouvrier, nous étions contre l'installation de cette zone franche. Et bon, nous avons perdu et nous avons vu qu'il fallait changer de stratégie, puisque la zone franche est belle et bien là. Donc, on savait qu'en général, que les zones franches, ce sont des zones de non-droit. Alors, il fallait que les travailleurs s'organisent et que leurs droits soient défendus et protégés. Donc, on a pu organiser les travailleurs. Et maintenant, il y a un syndicat qui fonctionne à la zone franche. Et au fait, c'est le seul syndicat qui fonctionne dans une usine de sous-traitance en Haïti. Et c'est aussi le seul syndicat qui a signé en deux fois une convention collective. Ça ne veut pas dire que tout marche bien.
La suite du combat, c'est quoi?
Le problème, c'est que ce sont des emplois précaires. Les gens ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils gagnent. Donc, les salaires sont très bas.
C'est quoi les salaires?
Bon, les salaires, je dirais, c'est à 125 gourdes la journée et c'est à peu près, disons, 10 à 12 euros par semaine. Et bon, et le coût de la vie est très élevé en Haïti et le travail est dur puisqu'on fait des... Il y a des quotas de production assez élevés aussi à faire. Et c'est pourquoi, après 3 ou 4 ans, les gens ne peuvent plus et ils quittent. Mais il y a toujours un renouvellement. Donc, il faut continuer à former et les travailleurs afin qu'ils puissent continuer à défendre leurs droits. C'est vrai. Et la première promotion on avait qui nous a permis de former le syndicat. Et bon, je dois dire que plus de la moitié de ces... déjà parti. Donc, il faut continuer à travailler et c'est une des raisons où nous avons décidé d'avoir une maison syndicale pour la pérennité du travail syndical dans cette zone. Et ensuite, organiser aussi une coordination entre les syndicats du Nord et de la deuxième ville du pays, particulièrement, le Cap-Haïtien, et le syndicat de la zone franche.
Ici, nous, on est des consommateurs de ces marques de textiles qui se sont installées dans les zones franches. Qu'est-ce que tu attends des consommateurs
Moi, ce qu'on attend, moi, deux choses en particulier. Un, d'être très veillatif concernant ce qui se passe dans les usines où on produit les vêtements qu'ils achètent en Europe ou aux États-Unis, afin que les droits des travailleurs soient respectés. Donc, ils peuvent faire pression sur les sociétés multinationales qui font produire et leurs marchandises dans les pays asiatiques, l'Amérique centrale, les Caraïbes, comme en Haïti, d'un côté. Et de l'autre côté, il faut aussi que ces gens-là et ne se voient pas seulement comme consommateurs et envoient des lettres de protestation, des cartes seulement. Il faut bien qu'ils s'organisent afin que ce système qui permet aux sociétés multinationales d'exploiter les gens dans les autres pays, et d'ailleurs, ces mêmes sociétés exploitent aussi les gens dans leur propre pays, donc il faut bien que ce ne soit pas un acte, je dois dire, humanitaire de supporter les luttes des travailleurs en pays étranger. Il faut aussi qu'ils participent aux luttes revendicatives dans leur propre pays, parce que on ne peut pas changer les choses seulement au sud, il faut qu'on change au nord et au sud, et il faut qu'il y ait c'est vrai, une solidarité agissante entre le Nord et le Sud. Et il faut que les combats qu'on mène au Sud soient connus des gens et du Sud et que ce qui se passe aussi au Nord soit connu au Sud. Donc, il faut quand même une synergie entre les travailleurs et les peuples des deux côtés et pour faire face à ce système, parce que c'est le capitalisme qui se développe et de cette façon, donc l'exploitation capitaliste, elle n'est pas bonne ni pour les travailleurs du Sud ni pour les travailleurs au Nord. Donc je pense que c'est pas seulement une question de faire de l'humanitaire ou bien disant oh ces pauvres travailleurs haïtiens, ces pauvres travailleurs chinois, ces pauvres travailleurs du Bangladesh ou du Pakistan qui sont exploités, etc. Mais il y a de l'exploitation aussi. D'ailleurs, les capitalistes ont exporté l'exploitation vers les autres pays. Donc, il faut bien qu'il y ait une stratégie de lutte où des deux côtés, on trouve des solutions. Il y a des luttes communes, il y a des luttes spécifiques à chaque pays, c'est vrai, mais il faut aussi qu'il y a des moments, enfin, il faut qu'on se rencontre quelque part, parce qu'on fait face à un même système.
Pour qu'on puisse aller protester auprès de ces firmes multinationales, tu pourrais nous citer des exemples des usines qui sont présentes dans cette firme?
Bon, il y a la compagnie Levis, il y a Gildan, qui est une compagnie canadienne, et Levis est une firme multinationale, bon, d'obédience américaine. Il y a d'autres, Nike, Disney, il y a pas mal d'autres, Hanes, on fait les maillots Hanes, et bon, Gap. Les grands noms, il y a toutes ces firmes multinationales qui font produits, ils sous-traitent. C'est vrai, le plus souvent, ils disent que enfin, ces compagnies, enfin, les CEO, les directeurs de ces boîtes, lorsqu'on les rencontre, ils disent ben, « nous avons fait une commande, c'est tout ». Alors, eux, ils ne savent pas où les commandes vont, qui et où vont les compagnies et de sous-traitance pour faire produire et ces marchandises à bon marché. Parce que c'est vrai, si vous payez un maillot, un t-shirt à, je ne sais pas, 10 euros ou 5 euros, vous allez dire c'est une bonne aubaine de payer un t-shirt à 5 euros. Mais ce qui se passe, c'est que les travailleurs qui produisent ces t-shirts, eux, ne reçoivent pas même un euro comme salaire. Il faut bien comprendre que et c'est ça et que les compagnies veulent. Ils disent que les consommateurs veulent des produits à bas prix, mais ce sont au fait les travailleurs qui payent.
Comme s'il y avait une sorte de malédiction à Haïti.
Est-ce que le pays est victime, comme on l'a beaucoup entendu, d'une malédiction ?
De cette catastrophe qui fait suite à tant d'autres, nous devons faire une occasion pour sortir une fois pour toutes Haïti et son peuple de la malédiction qui semble les accabler depuis si longtemps.
Bon, je ne vois pas pourquoi on devait nous punir. Hein? Et qu'est-ce que nous avons fait? Et nous n'avons pas fait des guerres, nous n'avons pas jeté des bombes sur des enfants et des gens que nous ne connaissons pas. Nous sommes un pays avec de grosses difficultés. Nous avons, un peuple qui vit dans la misère, dans la crasse et tout, mais ça ne veut pas dire que nous devons être punis pour cela. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les gens disent que c'est une malédiction. Bon, c'est vrai, il faut bien comprendre que Haïti est dans une zone à risque parce que nous avons deux failles et l'une au nord, l'autre au sud. Donc, lorsque ces failles arrivent, ce sont des trucs naturels qui arrivent et bon, c'est pas une malédiction. Bon.
On parlait de malédiction aussi sur une accumulation de choses, c'est-à-dire un tremblement de terre, mais avant un contexte social. Mais le contexte social, c'est pas un hasard quand même.
Non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est justement, et c'est ça le problème, lorsqu'on parle de malédiction, on est en train de cacher la vérité. On cache vraiment que le pays a été pillé, le pays a été et conduit d'une façon à ce qu'il soit pauvre, qu'il soit appauvri. Voilà, parce que on a eu une colonisation assez féroce, l'esclavage et tout. Et après, on a dû payer les dettes, une dette pour l'indépendance et ensuite des blocus économiques et militaires. Donc, on a dû des occupations militaires. On a dû faire face à des problèmes et les luttes intestines, les luttes intérieures ont été financées ou bien ont été instigées par des forces étrangères. Donc, finalement, bon, c'est vrai, on a notre part dans tous ces problèmes-là. C'est vrai, nous n'avons pas su gérer le pays convenablement. Donc, il y a des inégalités sociales flagrantes dans le pays. Mais c'est pas avoir un tremblement de terre, c'est pas une malédiction, mais aussi si les structures n'ont pas pu tenir, c'est parce qu'on n'avait pas construit et décemment, on aurait pu faire mieux. Et je n'y crois pas. Je pense que c'est une façon erronée, simpliste, troublante, je dirais, de voir les choses et de faire comprendre aux gens qu'ils doivent... c'est une sorte de flagellation, voilà. Et les Haïtiens vont se sentir très malheureux et ils ne pourront pas définir la route de leur futur, de prendre les décisions nécessaires pour changer les choses dans le pays.
Comment tu gardes un peu d'espoir dans tout ça, toi ?
Bon, moi, je suis optimiste de nature. Et c'est tout ce qui arrive, mauvais, négatif ou pas, je vois des opportunités, des défis à prendre en tant qu'opportunité. Ça nous permettra, en tant qu'organisation, et de renforcer et nos actions, de les multiplier et aussi de renforcer nos rangs et devenir une organisation plus militante, plus combative et plus forte, plus grande aussi. Donc ce sera dur, ce sera pas facile, mais c'est quand même une opportunité pour faire bouger les choses. Et c'est ce que nous voulons, changer, secouer, et réveiller les gens qui dorment et faire bouger, quoi. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vrai, c'est un grand défi. On parle de reconstruction du pays, un pays comme le nôtre, qui est vraiment à un niveau très, très, très bas, avec de difficultés énormes. Donc, il faut vraiment prendre les choses en main. Donc, je pense que ça nous permettra d'avoir encore plus d'expérience pour pouvoir prendre le taureau par les cornes comme on doit faire. Et naturellement, après un tel événement comme le séisme de 12 janvier.
Yon samba qui m'a contré studio touré gade m'nanger pour dimbito va ou son eknago tracé Congo. Nan mouman se salwe, des ane lumye m'passe, m'son ekwasyon kap devlope, se sak fe ke m'boze, m'kon ki bon poale, an lè m'ap gade, a te ya m'ap leve, jou pa m'nan rive ke m'boze, m'kon ki bon poale, an lè m'ap gade, te ya m'ap leve, jou pa m'nan rive, oh lolo. Oui, samba, depi l'alpha nou existe, jou klo me galon. Fom nan l'humanité, te vandlo di fe, ki lan swa pati si wa jwe, sou do okes la repose. te a ma pleve jou pa nan rive ke mpoze kon ki bon pou ane an le ma pande a te a ma pleve jou pa nan.